Tous ceux qui ont eu le privilège ou l'obligation de faire le service militaire savent ce que veut dire être de garde et attendre que le temps passe parce qu'on s'ennuie à mourir. Le rôle de la sentinelle est de faire le guet au cas où il se passerait quelque chose d'anormal. Dans les temps antiques, des soldats faisaient la ronde au sommet des murailles qui entouraient une ville ou autour des remparts d'un château fort. Leur rôle était de scruter l'horizon et d'avertir l'officier de service au cas où ils verraient quelque chose qui ne leur convienne pas. Tant que les sentinelles étaient vigilantes, la population était en sécurité derrière ses murs. Sous l'ancienne alliance, le rôle des prophètes était le même que celui d'une sentinelle. Repérer et dénoncer les mauvaises actions de leurs concitoyens et les avertir qu'ils encouraient le jugement de Dieu s'ils ne changeaient pas de conduite. L'Éternel a dit à Ézéchiel, « Fils d'homme, j'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors certes, ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si par contre tu as averti le coupable et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa conduite coupable, il mourra pour sa faute, mais toi, tu seras déchargé de ta responsabilité. » Le prophète Habacuc n'était pas une sentinelle à proprement parler. Pourtant, lui aussi scrutait le ciel et attendait, et peut-être trouvait-il le temps long. En effet, il avait posé une question précise à l'Éternel, s'était mis à l'écart et attendait que Dieu veuille bien lui répondre. Concernant le peuple chaldéen qui habitait en Babylonie, il avait demandé « Continuera-t-il donc toujours à vider son filet et à massacrer d'autres nations sans aucune retenue ?» Habacuc veut savoir quand les Chaldéens seront mis hors d'état de nuire. Il attend donc patiemment la réponse de Dieu. Cependant, il semble qu'un certain temps s'écoule avant qu'il ne reçoive l'oracle qu'il attendait avec l'ordre de l'écrire en gros caractères bien lisibles. Non seulement les voies de Dieu sont mystérieuses, mais il agit à son rythme qui correspond rarement au nôtre. Il avance mais selon son calendrier. Il a un plan qu'il suit pas à pas, mais il n'en révèle qu'une partie à ses prophètes. C'est ainsi que dans le livre de Daniel, on apprend qu'il avait décidé de révéler qui il est à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Mais quand Habacuc écrit son oracle contre les Chaldéens, il ignore tout cela, et Nabuchodonosor n'est même pas encore né. Je commence maintenant à lire le chapitre 2 du livre d'Habacuc. « Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur, et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, et ce que je répondrai suite à ma doléance. » Verset 1. Les expressions « je me tiendrai à mon poste de garde »,« je resterai debout sur le fort du guetteur » ne sont pas à prendre au pied de la lettre comme si Habacuc recevait ses révélations au sommet d'une forteresse. Elles décrivent simplement l'attitude et les attentes du prophète. Ce passage où Habacuc se parle à lui-même permet de comprendre son état d'esprit alors qu'il s'apprête à recevoir en lui-même une révélation de l'Éternel. Les images qu'il utilise décrivent sa préparation physique, psychologique et spirituelle, le recueillement de son âme, la recherche d'un endroit isolé et silencieux à l'écart des bruits et des préoccupations de tous les jours. Dans ce petit monologue, le prophète s'encourage à se tenir prêt à recevoir l'oracle qu'il attend. Il a invoqué l'Éternel. Il a même laissé échapper quelques plaintes de ses lèvres, plaintes et perplexités qu'il a partagées avec nous au chapitre précédent. Mais maintenant, dans son esprit de voyant, il entre dans un état second. Focalisé sur lui-même, il est prêt à écouter la voix de Dieu. Habacuc va donner la réponse à sa propre prière, mais cette réponse viendra de l'Éternel. Elle sera d'une part parole de Dieu, puisqu'il est prophète, et d'autre part parole d'Habacuc. Ce sera la parole de Dieu dite par Habacuc. Cet homme manifeste ici une conscience très forte d'être inspiré par l'Éternel et de parler de sa part. Sous l'Ancienne Alliance, les prophètes savaient qu'ils parlaient au nom de Dieu. Habacuc ne se prétend pas prophète, il l'est. Cependant, nous ne savons pas comment il a reçu son appel. A-t-il fait une école de prophètes comme il en existait en Israël, ou Dieu est-il simplement venu le chercher? C'est ce qui était arrivé à l'un de ses prédécesseurs, le prophète Amos, qui avant d'être appelé par Dieu était éleveur de bétail et cultivateur. Au grand prêtre du sanctuaire idolâtre du roi Jéroboam II, Amos avait dit « Je ne suis pas un prophète de métier et je ne fais pas partie d'une confrérie de prophètes. Je gagne ma vie en gardant des bœufs et en incisant les fruits des sycomores. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau et il m'a dit « Va prophétiser à Israël, mon peuple !» Fin de citation. Je continue le texte d'Habacuc. L'Éternel répondit « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement, afin que celui qui la lise puisse courir. » Verset 2. L'ordre de Dieu de mettre par écrit la révélation qui va suivre montre son importance ainsi que son caractère solennel. Cet oracle devra être soigneusement gravé en lettres bien lisibles pour que tout le monde puisse le consulter et le connaître. En d'autres mots, cette révélation devra être comme un panneau publicitaire, écrite en gros caractères, facile à lire et à comprendre. Elle doit être imprimée sur des tablettes qui pouvaient être en bois ou en pierre. Mais ici, comme il s'agit d'un message d'une importance capitale pour le royaume de Juda, il est probable que ce sont des tablettes de pierre, comme pour les 10 commandements au sujet desquels l'Éternel a dit à Moïse « Vous graverez sur les pierres, en caractère bien lisible, toutes les paroles de cette loi. » La pierre est évidemment ce qui, à cette époque, se conservait le mieux et le plus longtemps, ce qui sous-entend que l'accomplissement de l'oracle qui va être donné à Habacuc aura lieu dans un temps éloigné. Ces tablettes devront ensuite être exposées aux yeux du peuple afin que tous puissent en prendre connaissance. Dieu veut que cette prophétie soit connue et qu'elle perdure sans s'altérer. Ainsi, le jour où les Chaldéens instaureront un régime de terreur en Juda, cet oracle sera comme la carte routière des Israélites pieux afin qu'ils sachent que les temps difficiles qu'ils sont en train de vivre prendront bientôt fin. Cette connaissance entretiendra dans leur cœur le courage et l'espoir. Je continue le texte. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre qu'elle vienne, attends-la patiemment, car elle se dépêche vers la fin, elle ne tardera pas. Verset 3. L'oracle que l'Éternel annonce à son serviteur aura une double application car elle concerne aussi la fin des temps. Bien d'autres prophètes ont également reçu des révélations dont l'accomplissement n'aura lieu qu'au retour du Messie. Suite à la prière de Daniel, un ange est venu lui dire « Fils d'homme, comprends bien que cette vision concerne le temps de la fin. Je vais te révéler ce qui arrivera à la fin du temps de la colère divine » car un terme lui a été assigné. Puis plus tard, un autre personnage angélique parle à Daniel et utilise des expressions « temps de la fin » et « temps fixé ». L'Éternel explique donc au prophète Habacuc que s'il doit écrire d'une manière indélébile l'oracle qu'il va recevoir, c'est parce qu'il ne se réalisera que dans un lointain avenir au temps qu'il a fixé. Cependant, précise Dieu, son accomplissement est sûr et certain. Cette idée est renforcée par le fait Habacuc parle de cette révélation comme s'il s'agissait d'une personne animée du vif désir de s'accomplir au plus vite. Pour cette raison, on peut aussi comprendre la révélation comme étant la venue de l'Éternel lui-même, ce qui est d'ailleurs l'interprétation qu'en fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. En effet, il cite le verset d'Habacuc dans l'ancienne version grecque et l'applique au retour du Messie qui viendra sur terre pour établir son royaume 2000 ans. Il écrit « Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Toute révélation prophétique demande un certain degré de patience avant qu'on voit son accomplissement. De plus, certaines prophéties se réalisent par étapes ou deux fois de suite, comme celle d'Habacuc. Son premier accomplissement sera la ruine de la Babylone des Chaldéens aux mains du Perse Cyrus le Grand, et le second sera la destruction par Jésus-Christ le Messie du système mondial et machiavélique qui à la fin des temps sera mis en place par l'Antichrist et qui a pour nom Babylone. Je continue le texte. « Voici, il est enflé d'orgueil, il n'est pas droit de cœur, mais quant au juste, par sa foi, il vivra. » Verset 4. Ces paroles sont le point d'orgue de l'oracle qu'Habacuc doit graver sur les tablettes. Cette révélation a commencé par une menace terrible de l'Éternel qui a dit « Je vais faire lever les Chaldéens, un peuple rude et impétueux qui s'avance au large sur la terre pour s'emparer de demeures qui ne sont point à lui. » Mais ce qui est maintenant révélé au prophète est plein d'espoir. Les paroles « Il est enflé d'orgueil, il n'est pas droit de cœur » d'une part, et « Quant au juste, par sa foi il vivra » d'autre part, représentent deux sortes de personnes bien différentes et même opposées. Ce contraste définit les deux voies qui sont ouvertes à l'humanité et à tout homme en particulier. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite ». En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qui sont peu nombreux ceux qui les trouvent ? La porte est étroite parce qu'elle se réduit à une seule personne et ceux qui se prétendent larges d'esprit ne peuvent pas y accéder. Chaque être humain qui a jamais vu le jour s'est trouvé dans un camp ou dans l'autre, et il en est de même aujourd'hui. Soit il est enflé d'orgueil, ce qui se concrétise par le choix d'une vie d'indépendance vis-à-vis de Dieu, soit il est humble et soumis à son Créateur, ce qui se traduit par une vie dans la foi, la confiance en Dieu et en ses promesses. Il est intéressant de remarquer que le texte hébreu ne dit pas « Quant au juste par sa foi, il vivra ». Mais le texte dit « Quant au juste, par sa foi, il vivra ». Même si on devient juste par la foi, c'est un don de Dieu et non une œuvre méritoire. Ensuite, le juste prouve sa justice en vivant par la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » L'apôtre Paul a repris cette parole d'Habacuc, « Le juste, par sa foi, vivra », pour enseigner la doctrine de la justification par la foi en Jésus-Christ. Comme je dis parfois, il ne faut pas se fier aux apparences. Ce n'est pas parce que quelqu'un est agenouillé dans un lieu de culte qu'il est humble. Et il ne faut pas non plus se laisser impressionner par les ecclésiastiques qui portent certains vêtements aux couleurs vives propres à l'obédience de leur clocher ou par les objets religieux qui les entourent, car ces derniers sont à mettre au même rang que les gris-gris, pattes de lapin, Saint-Christophe et autres porte-bonheur. Comme chacun sait, l'habit ne fait pas le moine, et ce n'est pas l'appartenance à une confrérie religieuse qui prouve qu'on est sauvé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite la suite du passage d'Habacuc en disant « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » Selon les paroles d'Habacuc, ce sont les orgueilleux qui se retirent parce qu'ils mettent en doute la parole de Dieu. Ces gens sont légion, et parmi eux on trouve ceux qui se cachent dans la religion. En effet, le but de la plupart des rites humains est de remplacer l'enseignement des saintes écritures. Au lieu de placer sa foi en Dieu et de le prendre au mot, l'homme a inventé des petites cérémonies qui lui donnent bonne conscience, mais qui usurpent la place qui revient à son Créateur. Non, je ne suis pas un anticlérical invétéré, ni un iconoclaste au sens strict du mot, car j'apprécie les belles sculptures et les beaux tableaux religieux, et je suis fasciné par les reliques, mais uniquement à cause de leur intérêt artistique, car ces objets n'ont aucune valeur spirituelle, au contraire, ils sont dangereux car ils obstruent la voie vers Dieu. Ce qui compte devant l'Éternel est mon attitude intérieure, ce qu'on nomme le cœur. Or, faut-il rappeler que tout être humain vient au monde avec une âme noire? Certains deviennent des bandits de grand chemin, tandis que d'autres se donnent sans compter à une œuvre caritative. Ce n'est pas pareil, j'en conviens, et je préfère avoir pour ami le second type de personne. Mais devant Dieu, ce n'est pas ce qu'on fait en bien ou en mal qui change la couleur de l'âme. Moi, je suis né noir encre, et je n'ai jamais fait de mal à une mouche, même en cas de légitime défense. En réalité, je suis menteur, car j'assassine volontiers tout ce qui voudrait me piquer ou qui vole autour de moi. Mes voisins diront peut-être que je suis bien brave et au moins aussi méritant que n'importe qui. Cependant, ce n'est pas ma bonté qui a mis une pointe de blanc dans mon âme noire. Un jour, on m'a présenté Jésus-Christ et après avoir bataillé, je l'ai accepté comme mon sauveur. Alors, son sang a effacé le noir de mon âme. Rien d'autre ne peut accomplir un tel miracle. La déclaration d'Habacuc, « Voici, il est enflé d'orgueil, il n'est pas droit de cœur, mais quant au juste, par sa foi il vivra », définit deux Israélites. L'un abandonne l'Éternel, la voie droite, et fait fi de ses promesses pour suivre les penchants de son cœur. L'autre, au contraire, trouve son assurance dans la parole de Dieu et s'attend patiemment à lui. Parce qu'il a confiance dans les promesses divines, il sera récompensé en gardant sa vie le jour de la tribulation, quand les Chaldéens investiront Jérusalem. Alors que le royaume tombera en ruine, les fidèles du Seigneur seront épargnés. Nous ne savons pas comment cela s'est passé, mais Dieu peut préserver les siens, quelles que soient les circonstances. Le psalmiste écrit: celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile, et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier. Elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni les terreurs de la nuit, ni flèches qui volent durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi, qu'un millier tombe à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Fin de citation. Cela dit, si la prophétie d'Habacuc commence bien par une pensée fondamentale qui est applicable à tout être humain et à l'Israélite, l'homme enflé d'orgueil auquel il fait allusion représente d'abord les Chaldéens dans leur ensemble. En effet, c'est d'eux dont il est question avant et après la déclaration d'Habacuc. Le Chaldéen est enflé d'orgueil et il n'est pas droit de cœur, car dans sa méchanceté, il engloutit des peuples et s'enivre de ses succès. Mais la prophétie d'Habacuc annonce qu'un jour, ces mêmes peuples crieront sur lui « Malheur, malheur, 5 fois malheur !»« Malheur à cause de ses déprédations, malheur à cause de la confiance qu'il place en sa force militaire et ses triomphes. Malheur, parce qu'il travaille pour lui-même et non pour la gloire de l'Éternel, laquelle toutefois couvrira un jour la terre entière, ce qu'a également annoncé le prophète Ésaïe. Malheur aux Chaldéens à cause des maux dont il abreuve les nations. Et enfin, malheur à lui parce qu'il adore des idoles muettes. Et en cela, il méprise l'Éternel devant qui le monde entier doit faire silence. Quant à ceux dont il est dit « par sa foi, il vivra », ce sont les Israélites qui, parce qu'ils sont justes, garderont au travers des épreuves la foi en l'Éternel et la confiance en ses paroles. Jean Calvin a élevé cette idée au rang d'une doctrine qu'il a nommée « la persévérance des saints ». En effet, la foi n'est pas un acte ponctuel, mais un mode de vie. Ceux qui traversent les difficultés inhérentes à l'existence et qui restent fidèles à Dieu prouvent par là que leur foi est authentique.